Alors, bonsoir, chers auditeurs. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Merci également à ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent via les réseaux sociaux ou sur Décentré. Alors, ce soir, on parle en toute intimité. Je suis accompagné de Diane Deslongchamps, qui est coach en périnatalité. Et le sujet, eh bien, un sujet qui est très intime, mesdames et messieurs, on va parler de sexualité féminine et de sexualité masculine. Bonsoir, Diane.
Bonsoir, Eric, ça va bien?
Oui, ça va, merci, Diane. Et toi?
Oui, ça va bien, merci beaucoup.
Je suis content que tu sois là parce que le sujet d'aujourd'hui va toucher différentes dimensions et de par ta formation d'infirmière, ça va être intéressant de comprendre que les différences physiques et psychologiques jouent un rôle dans, je dirais, dans la qualité de notre intimité sexuelle. Peux-tu nous en parler un petit peu?
Effectivement, tu as bien raison, parce qu'on est fait différemment les hommes des femmes, tant physiquement que psychologiquement. D'abord, physiquement, les hommes, ben, on sait, vos organes sexuels sont externes, alors que chez nous, les femmes, une grande partie de l'appareil génital est cachée dans le bas-ventre. Donc, pour la femme, la sexualité est plus intime. La femme reçoit la semence masculine dans l'intériorité de son corps. Mm-hmm. Si, par exemple, un ovule est fécondé, c'est en elle que se développe l'embryon, c'est elle qui porte l'enfant. Puisque ça se passe à l'interne, surtout, on comprend pourquoi, souvent, une femme perçoit plus spontanément les relations sexuelles comme quelque chose d'important et qui engage. Mm. Il y a aussi, au niveau de la fertilité, c'est différent d'un sexe à l'autre. L'homme est fertile à partir de la puberté jusqu'à un âge avancé. On pense souvent à Charlie Chaplin qui est devenu papa pour la xème fois à l'âge de 81 ans. Et d'un âge avancé, puis de façon continue et stable jour après jour. L'homme est donc potentiellement fertile à chaque union sexuelle pour la majeure partie de sa vie à partir de la puberté. Chez la femme, la fertilité est au contraire cyclique. On sait tous mm-hmm. qu'on a un cycle menstruel. Malheureusement, parce que ce serait agréable d'être toujours sur le même... ce serait agréable d'être comme vous autres, de ne pas avoir de cycle. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a été conçu. Fait qu'on a un cycle de 28 ou 30 jours selon les femmes. Puis notre variation hormonale va varier de jour en jour. Puis ça l'influe sur notre humeur, notre forme, comment on se sent, et sur notre fertilité, mais aussi sur notre désir sexuel qui est généralement plus fort lors de l'ovulation. Mm-hmm. Chez l'homme, il n'y a pas de variation. L'hormone sexuelle masculine, la testostérone qui provoque la sécrétion des spermatozoïdes, est sécrétée de façon continue de jour en jour. Le désir sexuel et l'humeur ne sont pas soumis à de brusques changements de nature hormonale comme nous, les femmes. Et c'est ça qui fait qu'on a de la misère souvent à se rejoindre parce que pour vous, les hommes, vous ne comprenez pas nécessairement. Ça, il y a un apprentissage à ça, mais chez les jeunes couples, là, quand ils commencent leur union de vie, les hommes ne sont pas habitués à voir que, bon, des fois, ça étend de foule, puis des fois, ça étend pas. Fait que ça fait, on apprend à se connaître dans nos différences physiologiques et psychologiques.
Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que John Gray, l'auteur du livre à succès « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », va comparer les femmes à des vagues, hein, parce qu'il y a des cycles. Hein. Une vague, là, tu sais, il y a une montée, il y a une descente. La mer, des fois, elle est calme, mais des fois, elle est plus intense. Et c'est la même chose parce que physiquement, vous n'êtes pas conçu de la même façon et vos cycles influencent votre humeur, vos comportements et inévitablement influencent la sexualité du couple. Et il y a un autre aspect qui crée une influence et qui nous différencie, c'est la question du désir. Hein, parce que l'homme aussi, au niveau du désir, il est différent. Lui, son excitation n'est pas provoquée de la même façon. Il est beaucoup plus attiré par la vue. Un homme qui va voir une image, une photo, ou il va voir quelqu'un, une femme par exemple, et il va avoir une pensée, il va relier à une pensée sexuelle, peut vivre une excitation assez rapidement, même je pourrais dire assez instantanément. Et c'est pour ça que il va avoir, à ce moment-là, dès qu'il y a une excitation qui est reliée à une dimension sexuelle, à une vision sexuelle, à une pensée sexuelle, bien, il va avoir une érection automatique. Et là, le désir de s'engager dans une activité sexuelle va être assez présente, ou même, dans certains cas, omniprésente. Mais c'est différent chez les femmes, n'est-ce pas?
Oui, chez les femmes, c'est un peu plus complexe, dans le sens que vous autres, c'est vraiment par la vue, même par l'odorat, des parfums qui peuvent vous rappeler des choses ou des moments heureux, entre guillemets. Tandis que chez nous, le désir il est provoqué ou entravé par des soucis qui sont extérieurs, tu sais, l'atmosphère, la fatigue. Chez nous, l'union sexuelle, pour les hommes, l'union sexuelle, ça le détend. Alors que la femme, elle, a besoin de se sentir détendue pour désirer s'unir. Fait que c'est un gros clash entre les deux. Fait que c'est ça, la préparation de la femme, c'est important. La femme est sensible à la qualité de la relation amoureuse, a bien du mal à ouvrir son corps si son cœur est encore blessé par une dispute, par une remarque désagréable, un manque d'attention. Un petit rien peut vraiment la fermer. Puis quand on dit fermer, ça se passe au niveau du cerveau, mais ça se passe aussi physiquement. Ça fait dire à certains hommes que les femmes sont bien compliquées.
Oui, parce que nous, c'est plus facile pour nous de compartimenter. Hein? Nous, c'est comme si on est une assiette, là. Il y a la viande à gauche, il y a les brocolis en haut, puis à droite, il va y avoir de la laitue, par exemple. Puis en bas, il va y avoir des patates pilées. Tu sais, chaque ingrédient est séparé et il n'y a pas nécessairement une connexion entre. Et ça, c'est comment on est constitué au niveau des connecteurs dans notre cerveau. Tandis que vous, les femmes, vous avez plus de connexions. Donc, dès qu'il y a un élément de l'ensemble qui est touché, ça touche toute votre être. Puis je comparais ça à un bol de soupe. Hein? Si, par exemple, un bol de soupe, on met simplement une goutte de tabasco, bien, toute la soupe va goûter le tabasco, puis ça, c'est, ça vous ressemble plus, vous, les femmes.
Ça a un effet domino.
Tout à fait. Et au niveau du plaisir, il y a aussi des différences, parce que justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, quand l'homme est excité, il a besoin d'un relâchement assez immédiat. Évidemment, ça se gère, ça se contrôle. Hein? Si un homme vit une excitation dans l'autobus, il va se garder une petite gêne, il va se retenir. Mais si dans un contexte d'intimité, il est seul avec sa femme, eh bien, son désir d'entreprendre une activité sexuelle, une intimité sexuelle, va être assez rapide. Donc, il va chercher plus rapidement à vouloir être soulagé parce que c'est lorsqu'il vit l'éjaculation qu'il a, il vit un relâchement de tension, et c'est là qu'il vit un soulagement. Et même parfois, je pourrais dire qu'en tant qu'homme, beaucoup d'hommes peuvent le vivre comme ça. Quand il y a une excitation, même parfois, il y a des douleurs physiques où est-ce que le besoin de relâchement se fait sentir, se fait même presser. Et ça, c'est quelque chose à considérer. C'est à gérer, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins ou presque pas chez les femmes, ou du moins, ça ne se vit pas dans cette réalité-là. Peux-tu nous parler du désir, du plaisir féminin, pardon?
Bien, en fait, c'est ça, on ne répond pas au même phénomène physiologique que vous. Vous autres, c'est la montée jusqu'à l'orgasme. Nous aussi. Mais il y a comme un plateau, une montée, un peu comme le cycle menstruel d'ailleurs. Mm-hmm. C'est plat, ça monte vers l'ovulation. La même chose pour la relation sexuelle. Ça monte doucement et puis ça atteint son paroxysme. Mais c'est pas forcément lorsque l'homme éjacule ou ça peut être une... On peut avoir un orgasme au niveau du col utérus, on peut l'avoir au fond du vagin. On peut l'avoir dans les préliminaires, on peut l'avoir même après que l'homme ait éjaculé ou en même temps. On veut toujours que ce soit en même temps, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça se passe un peu différemment chez nous.
Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il est important, c'est d'être à l'écoute l'un de l'autre, de comprendre que nous, en tant qu'hommes, même si on a une pulsion, il y a quelque chose qui nous pousse, il y a un désir. Comme je disais tout à l'heure, il y a même, ça peut être un malaise physique parce qu'il y a une recherche de ce relâchement, de cette détente. C'est important pour l'homme quand même d'apprendre à le gérer et dans son, pas juste d'en gérer comme son soulagement, mais de gérer son approche envers sa conjointe. Parce que ce n'est pas juste parce que j'ai le besoin là que je dois m'imposer à mon épouse, ma conjointe, mon amoureuse, puis dire, ben là, j'ai besoin d'être soulagé là. Donc, c'est important de comprendre comment est faite une femme pour pouvoir l'aborder, l'accueillir, pour que le plaisir soit partagé. Parce que une femme qui est précipitée, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, là, parce que des fois, ça peut être excitant d'être précipité. On sait que les enfants s'en viennent bientôt, puis là, il nous reste que peut-être juste une demi-heure, là, OK, ça peut être excitant. Mais quand c'est toujours comme ça, sans raison, mais là ça peut créer justement une pression, puis ça peut refermer une femme, n'est-ce pas, Diane?
Oui, tu as bien raison, parce que les petites vitres, c'est bon, mais il faut que ça soit aussi partagé avec des séances, avec des préliminaires, et puis, disons qu'on met la table pour quelque chose qui va être un peu plus long, mais ça un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que ça ne devrait pas être comme quelque chose de régulier ou d'être unique, en fait, c'est plus ça que je veux dire. Puis, dans la même idée, la femme, elle doit faire attention de ne pas trop exciter son mari si elle n'est pas prête, parce que sinon, lui, il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas dire oh, « OK, on arrête ça là ». Ça ne marche pas comme ça. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait comme... En se parlant ou en se parlant pas, mais en communiquant d'une façon ou d'une autre, soit verbale ou physique, qu'on se communique là où on est rendu pour pouvoir arriver à... essentiellement au même endroit, en même temps, ou plus ou moins en même temps.
Tout à fait, parce qu'il y a certaines caresses, par exemple, les caresses dans le bas du ventre pour un homme, ou les caresses au niveau des cuisses qui peuvent générer une excitation, parce que là, il y a une anticipation, que soit ça descende plus bas ou que ça monte plus haut. Et là, à ce moment-là, si ce n'est pas nécessairement l'intention de sa conjointe, de sa partenaire, bien, ça peut lancer un faux signal qui crée une déception ou une tension ou une dispute dans le couple. Donc, il faut faire attention à ces réalités-là, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Peux-tu nous parler un petit peu de, justement, il y a un concept que je trouve intéressant que tu voulais soulever avant qu'on parle de romance et d'érotisme. Tu voulais nous parler de libération versus de puissance progressive. Donc, ça a l'air un terme technique, mais je suis convaincu, te connaissant, que c'est quelque chose d'assez simple. Parle-nous-en, s'il te plaît.
Bien, en fait, brièvement, ce que dit John Gray dans son livre, comment ça s'appelle déjà? Mars et Vénus sous la couette?
Exact.
Pour un homme, la jouissance s'apparente avant tout à une délivrance après la phase de tension sexuelle. Contrairement à la femme, elle, le plaisir féminin, il correspond à une montée puissante en puissance progressive de la tension sexuelle. Fait que là aussi, c'est vraiment, c'est la montée en puissance pour un aboutissement. Fait que c'est vraiment, alors que la délivrance, c'est après la phase de tension chez l'homme. On est comme à l'opposé, mais on arrive au même résultat, en fait.
Oui, puis il y a deux autres opposés. Merci pour ce résumé-là, Diane. C'est vraiment intéressant. Et je vois que le temps avance, puis je voudrais qu'on parle de deux autres opposés qui se croisent à un certain moment. C'est la romance, le romantisme et l'érotisme. Et je crois que pour la plupart des hommes, si on parle d'érotisme, ça va les allumer, ça va les exciter. Mais on voit que, règle générale, on parle toujours de généralité, c'est plutôt le romantisme qui va rejoindre les femmes. Donc, c'est important pour un homme de comprendre ça, parce que lorsqu'on parle de romantisme, de romance, on fait appel à plusieurs sens. Hein? Dans la romance, comment je vois ça, Diane, c'est... c'est d'apprendre à comprendre ce qui fait plaisir à l'autre et de l'aborder subtilement pour créer une excitation ou une montée d'excitation progressive. Parce que nous, les hommes, dès qu'il y a une excitation, il y a quelque chose qui se passe, c'est physique. Et une fois que le côté physique est excité, eh bien, tout le reste des sens est comme orienté vers l'activité sexuelle. Mais quand on pense par le romantisme, que ce soit au travers une ambiance, au travers les sens comme l'ouïe, la musique, l'odorat, on vient de sortir de la douche, on s'est parfumé, on s'est mis de l'eau de toilette, on sent bon, une odeur qui est attirante, ça vient chercher l'odorat, la vue. Hein, évidemment, ça peut arriver qu'on fasse l'amour, qu'on n'est pas nécessairement bien habillé, mais quand, je ne sais pas pourquoi, mais ce que la recherche démontre, c'est que il y a plusieurs femmes qui vont être excitées, par exemple, à la vue d'un homme en uniforme, ou du moins quand un homme est bien habillé, les linges qu'il porte, le linge qu'il porte, les sous-vêtements qu'il porte vont avoir un effet sur la vue. Donc, il y a aussi évidemment le toucher, quand le toucher n'est pas brusque, il est progressif, c'est juste une petite caresse tranquillement. Et, Diane, non le moindre, la parole. La parole. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure parce que la parole a un effet romantique, mais aussi un effet érotique chez la femme. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous parler sur le romantisme, Diane?
Oui, bien, en fait, tu sais, le romantisme, je pense qu'il y en a souvent au début de la relation parce qu'on est en mode de séduction. Donc, les hommes, ils vont être romantiques. Puis les femmes, ils vont bien répondre à ça. Puis, à un moment donné, ça se perd dans la relation parce qu'on a acquis l'autre, entre guillemets. Mm-hmm. Et puis, c'est là que ça se perd. Mais c'est drôlement important parce que le romantisme, là, je donne un exemple, OK? Si c'est l'homme, souvent les femmes, on organise la maison, les enfants, on a le travail, on est généralement très organisé. Puis, mettons que ton conjoint, il décide de te sortir, puis il va tout faire, la réservation des places, il va s'occuper d'avoir trouvé une gardienne pour les enfants. Il va tout avoir mis en œuvre pour que cette soirée-là, toi, tu n'as rien eu à faire, mm-hmm. puis que tu puisses te détendre, puis te sentir dorloté, puis pour que tu puisses renouer avec ton côté féminin. Ça, là, mm-hmm. c'est ça qui fait que ça fait une ouverture, cette romance-là.
Oui.
Parce qu'on s'entend, romance, c'est comme, on est comme pas dans le vrai monde, on est comme dans le roman. Mais mm-hmm. ce côté-là est important parce que ça nous permet de sortir de notre zone connue, de notre quotidien, même avec dans notre relation avec notre conjoint, c'est de le voir sur un nouvel angle, pas de le voir comme à tous les jours, c'est de le voir différemment. Puis de répondre à ça, c'est très facile pour une femme de répondre à des comportements comme ça. Mais ça nous ouvre vers la sexualité ou en tout cas un temps de connexion plus intense avec notre conjoint.
Oui, tout à fait, parce que cette atmosphère-là qu'on crée par la romance, c'est une atmosphère où est-ce que on oublie tout le reste, puis c'est comme si on est l'un et l'autre sur une île déserte.
Effectivement.
C'est pour ça que des couples aiment ça aller au restaurant parce qu'ils se sentent isolés. Même s'il y a du monde autour, on ne les connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Donc, ils font juste partie du décor. On sort de la routine et là, on est connecté cœur à cœur l'un envers l'autre dans une atmosphère qui est agréable où est-ce que les soucis sont évacués. Et s'il en reste, mais ça permet, vu que l'atmosphère est détendue, ça permet à la femme de pouvoir les exprimer, s'en libérer, les évacuer pour vraiment aller en profondeur et vivre un bon moment. Et c'est pour ça que même si on a la bonne musique, même si On a un petit toucher qui effleure le bras pour qu'il y ait une petite sensation, même si on donne un petit bec dans le cou. S'il n'y a pas eu cet échange-là, où est-ce que le cœur n'a pas connecté avec l'autre, mais moi, je ne peux pas appeler ça une romance, quoique ça peut être romantique comme moment, mais ça n'a pas le même impact que quand l'épouse se sent, ou la conjointe, sent qu'il y a eu une connexion avec son amoureux. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Diane?
Oui, et puis si tu me permets, je rajouterais que,
bien sûr,
un exemple personnel. Dans la période où nos enfants étaient tous ados, on en a quatre, on avait ce rituel-là le vendredi soir d'aller manger au restaurant. On apportait une petite bouteille de vin, puis on déconnectait de notre bulle familiale pour se retrouver dans notre bulle de couple. Comme tu dis, j'ai vraiment aimé comment tu le dis. Puis c'était, on parle de toute notre semaine, tout ce qu'on a à dire, on se le dit, c'est comme ce qu'on n'a pas eu le temps de se dire, parce que ça arrive souvent, hein, quand on a quatre ados, là, puis que les choses vont vite, là, qu'on n'a pas le temps de tout se dire, les bonnes comme les mauvaises choses, mais d'une façon correcte, là. Et puis, on rentre dans une communication, dans un autre niveau, tu sais. Puis tu rajoutes à ça, comme tu disais, là, soit les toucher ou soit les petits clins d'œil, parce que ça mène à ça, parce qu'on fait descendre la tension familiale pour se retrouver dans notre vie de couple à deux, tu sais. Mais toi, Eric, ça te dit quoi le romantisme et la communication? Est-ce que tu penses que c'est essentiel pour nourrir l'amour?
Oui, c'est essentiel. Puis aussi, quand je pense à tout ce qui touche la réalité amoureuse, c'est important le romantisme, mais c'est important aussi que, en dehors des temps où est-ce qu'on se donne des moments seuls, qu'il y ait des marques d'affection. Que c'est les marques d'affection physique ou les marques d'appréciation se vivent en dehors des temps de romance et en dehors du lit. On a déjà parlé dans le passé, mais je veux y revenir rapidement parce que, par exemple, une femme a besoin d'une accolade, d'une caresse, en raison de 4 fois par jour pour être sevrée émotionnellement. Et si un homme ne fait que caresser sa femme parce qu'il y a l'attente qu'il se passe quelque chose au lit, ça ne lance pas le même signal qu'une femme qui est comblée et que quand vient le temps de toucher au travers de la romance ou un toucher qui est un peu plus sensuel, mais la réponse va être plus grande parce qu'elle a déjà été comblée. Elle n'associe pas le toucher de son mari à « Ah, il veut du sexe ».
Oui, tu as raison.
Et ça, c'est important, ça.
Oui.
Et c'est pour ça que je vois le temps filer et j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'érotisme. Pourquoi? Parce que souvent, la connotation qui est associée à l'érotisme, c'est que, on va le dire en québécois, c'est quelque chose qui est cochon. Hein? En québécois, on dit ça, là. Donc, ça a une connotation péjorative. Pourquoi? À cause que, malheureusement, la pornographie a sali l'érotisme. Aussi parce que quand on associe l'érotisme aux hommes, on se dit « Ah, ben c'est sûr, ils sont attirés par l'érotisme parce qu'ils pensent juste au sexe. » Et peut-être qu'on a été éduqué dans ce concept que, quand on était jeune, il ne faut pas toucher à la sexualité parce que c'est quelque chose de sale. Et là, on grandit avec justement une certaine fausse pudeur. Malheureusement, il y a des gens, que ce soit des garçons ou des filles, qui ont vécu des attouchements sexuels non appropriés, hein, dans leur jeunesse. Tout attouchement sexuel est non approprié dans la jeunesse, mais je veux dire qu'ils ont vécu des attouchements sexuels par des gens de leur entourage qui n'étaient pas désirés et qui a justement faussé leur compréhension de la sexualité parce que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Alors, tous ces éléments-là font en sorte que tout ce qui touche l'érotisme, un peu l'excitation, ce qu'on pourrait dire qui est un peu interdit parce que ça fait partie de l'intimité, c'est pas quelque chose qui doit sortir de la chambre à coucher ou de l'intimité. Alors, de sortir un peu des sentiers battus, c'est ça l'expression que je cherchais, ça peut freiner une femme qui, justement, a un mauvais rapport avec l'érotisme ou une femme qui a son conjoint, son mari l'a trompé, par exemple. Et pour vous mettre dans le contexte, à un moment donné, j'étais dans une rencontre de groupe On vivait, c'était une rencontre qui se passait pendant quelques jours à l'extérieur, isolée, et on vivait une démarche ensemble. Puis au souper, bon, on parle, les participants, les uns avec les autres. Puis à un moment donné, une femme me confie comme ça, elle dit, ah, je vis un combat intérieurement parce que je ne sais pas pourquoi. J'aurais le goût d'expérimenter ce que c'est un striptease. Non? Ça veut dire se dévêtir, t'sais, morceau par morceau. T'sais. J'ai dit, mais pourquoi tu ne le vis pas avec ton mari? Puis c'est aussi banal que ça. Elle s'est dit, ben sais-tu, j'y avais jamais pensé. Mais je me dis, ben voyons donc, je suis sûr que ça lui ferait plaisir de vivre ça. C'est votre intimité. Toi, c'est pas lui qui te l'a imposé. Non, il m'a jamais parlé de ça. C'est toi qui désires ça. Mais pourquoi tu lui fais pas vivre ce bon moment-là à lui? Et là, elle est venue toute souriante, puis elle me dit merci, puis on a parlé de d'autres choses par la suite, parce que c'est comme on venait de toucher quelque chose qui venait de la libérer. C'est comme s'il y avait quelque chose en elle qui voulait vivre, qui voulait sortir des sentiers battus sur le plan de l'intimité sexuelle. Mais c'est comme si elle ne se le permettait pas.
C'est comme s'il y avait un interdit qui était permis.
Exactement.
Ouais.
Et là, ça l'a libéré. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on va parler du dialogue. Comment aborder ces sujets-là entre hommes et femmes pour pouvoir se permettre des choses que peut-être on se prive, de se permettre des choses où est-ce que l'un et l'autre sont à l'aise, parce que c'est important que mutuellement on soit d'accord. On ne doit pas forcer l'autre. On n'a pas imposé, par exemple, nos fantasmes à l'autre, mais d'en parler, puis de voir est-ce qu'il y a une ouverture, est-ce qu'il y a un intérêt. Et ça, c'est important. Une autre chose que j'aimerais parler, peut-être comme dernier sujet, avant avant de clore l'émission, il y a des besoins que les femmes ont lorsqu'on fait l'amour et que les hommes ont intérêt à comprendre. Et c'est que, premièrement, le besoin de réciprocité. Ce que nous, les hommes, ça nous échappe, ça, ce principe-là ou ce besoin-là. Je donne un exemple. À un moment donné, si ma femme veut me faire plaisir, puis elle se met spontanément à me dire, ah, j'ai le goût de te masser les pieds. La réaction de, je dirais, 80 à 90% des hommes, parce que eux, comment est-ce qu'ils réagissent à un bienfait? Ils vont dire, merci beaucoup, ça me fait plaisir. T'es bien fine. Parce que eux, là, quand là, ils font quelque chose, ils offrent un service, ils font du bien à l'autre, ils aiment la reconnaissance puis les remerciements. Donc, ils font la même chose. Ils disent, moi, j'aime ça être remercié, je vais remercier. Mais normalement, si on transpose le contraire, l'homme masse les pieds de sa femme, elle ne le remerciera pas. Elle va lui faire en retour. Elle va le remercier en lui faisant la même chose. Elle va lui masser les pieds. OK, c'est à mon tour de te masser. Alors, c'est important qu'on comprenne ça en tant qu'homme, que quand une femme nous fait du bien, de trouver un moyen sur son terrain à elle aussi de lui rendre l'appareil, elle va se sentir connue, elle va se sentir aimée, elle va se sentir appréciée, elle va sentir que, ah, je ne fais pas juste des choses pour lui, il en fait pour moi. Ça, c'est important. Est-ce que c'est vrai, ça, Diane?
Tellement. 100% d'accord.
Ouais. Et pour moi, je trouve ça important également, après une relation, d'avoir vécu une intimité physique, une intimité sexuelle, je trouve important de prendre le temps, par exemple, de caresser sa femme, lui caresser les cheveux, lui manifester une affection physique par la suite qui n'est pas sexuelle, qui est juste comme où ça peut être de la coller pendant plus que 30 secondes.
La
Et
tendresse.
c'est un moment de tendresse pour dire OK, puis de prendre le temps de la regarder aussi quand il y a eu une activité sexuelle, surtout. surtout, messieurs, puis je vais revenir dans une autre émission là-dessus, mais je vous lance l'idée. Quand vous vous atteignez l'orgasme, regardez votre épouse dans les yeux. Et mesdames, regardez votre mari quand il vit cette jouissance-là, parce qu'au moment de l'orgasme, l'homme vit, c'est là qu'il vit le soulagement, mais c'est là aussi en même temps qu'il y a une photo, une image qui est collée en même temps que son orgasme. Et par la suite, ces images sexuelles, quand il va avoir une excitation sexuelle, ces images-là vont revenir à son esprit. Et plutôt que, ou que quand il va voir une femme excitante qui n'est pas vous, cette image va revenir et il va la remplacer par cette image-là parce qu'au moment de la jouissance, il vous a vu sourire, il a vu que c'est vous qui a amené à la satisfaction et c'est ça qui le comble. Et c'est pour ça que votre sourire, votre expression de plaisir pendant qu'il jouit, joue un rôle extraordinaire dans toute son imagerie sexuelle. Alors, bien, je vois que le temps file. Diane, merci. Merci pour ta contribution. Il y aurait tellement d'autres sujets à dire. On va s'arrêter là-dessus. Et bien, je vous dis, la semaine prochaine, on va parler de tabous et on va parler de comment aborder la sexualité dans le couple. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Diane.
Merci à toi. Bonne soirée à nos auditeurs.
Et donc, le rendez-vous mercredi soir prochain sur les ondes du 92,7 FM à 22h. Au revoir.
Au revoir.